le dire pour Abraham, mais je reviens toujours en arrière, si jamais ça ne passe pas, vous me faites des signes. Alors, le plan là, pour ce chapitre 13, pour vous propose, donc, on va voir donc, avec les premiers versets, le temple de Jérusalem. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi, une rapide compréhension, un survol rapide de notre compréhension de la fin des temps. Hein, et je vous expliquerai pourquoi. Et puis on va se rendre compte que les disciples vont poser deux questions un petit peu différentes à Jésus, qui va après leur répondre. Donc il va répondre sur ces deux questions. Ça c'est le troisième point, et c'est sur celui-là que nous passerons le plus de temps du jour. Et puis, quelles conséquences, ce chapitre 13, quelles conséquences pour nous aujourd'hui? Voilà. Alors, on va prendre donc les deux premiers versets, si quelqu'un veut lire, donc Marc 13, verset 1 et verset 2.
Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. »
Voilà, merci. Alors, en fait, comme je ne savais pas si qui serait présent, j'ai fait quand même un rapide, très très rapide survol pour qu'on sache de quoi on parle et de quoi il s'agit là, ici, avec le temple. Donc ça va être très rapide, simplement on se rappelle que Dieu avait donné à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse, des directives très précises pour la construction du tabernacle, là où il allait habiter. Un tabernacle, ça veut dire d'ailleurs habitation. Voilà, avec beaucoup de détails, qui sont d'ailleurs très très intéressants, et peut-être qu'on refera une étude là-dessus. Je me souviens que Jean avait fait toute une série, et ça avait été un grand encouragement, donc je me disais, tiens, en regardant cela, je me dis, tiens, ça vaudrait le coup, peut-être, puisque Jean a tout de près, qu'on le reprenne. Alors là, nous sommes en 1560 avant Jésus-Christ, et finalement, c'est cette habitation qui va être, qui va durer le plus longtemps. Et simplement, en 960, il y a la construction du temple sous le roi Salomon. On se rappelle que David voulait le construire, mais c'est Salomon finalement qui a construit le temple. Et ce temple-là va être utilisé pendant pas très 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 longtemps finalement, puisque donc suite aux désobéissances du peuple, à la déportation, à la révolte aussi du peuple juif, les Chaldéens vont détruire totalement Jérusalem et le temple, ils vont tout raser. Et là, nous sommes en 586 avant Jésus-Christ. Et, eh bien, quelques temps plus tard, le Seigneur va parler au cœur d'un roi païen, c'est un roi perse, c'est Cyrus, qui va donc demander à ce que le peuple d'Israël reconstruise, rebâtisse le temple. Alors là, je vous ai mis une photo, enfin une photo, c'est pas une photo de prise à l'époque, mais il y a une petite erreur là, quand même. Hein. Je sais pas si quelqu'un le voit. Si ici, là, je vois ma souris, ça, si ça, ce sont les murailles. Les murailles, elles ont été bâties après, après le temple. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, le second temple, on va dire, est reconstruit. Et il va avoir une vie un petit peu chaotique, hein, puisqu'on se rappelle même qu'il a été profané du temps d'Antiochus Épiphane. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Et donc, avec des sacrifices d'animaux impurs, les Maccabées donc, vont aussi le transformer, le fortifier. Et puis c'est surtout sous Hérode le Grand que là les choses vont totalement changer, il va être totalement modifié, et c'est là hein, qu'on arrive donc dans ce chapitre 13. En fait, vous rappelez que Hérode le Grand avait une crainte qu'on lui prenne sa place de roi. Bon, c'était un roi de pacotille, hein, puisque c'était les Romains qui gouvernaient, hein, mais il tenait à sa place, il n'a pas hésité à faire mourir des membres de sa famille proche. On sait aussi que quand les mages sont venus, hein, où est le roi des Juifs qui vient de naître, ça a été un coup de tonnerre. La conséquence, il n'a pas hésité à se mettre contre Dieu et à faire tuer tous les garçons de 2 ans et en dessous dans Jérusalem. Et donc, en fait, il avait craigné énormément pour sa place et il voulait impressionner. Et ça a été un très, très grand bâtisseur. À tel point que Jérusalem, à l'époque, c'était vraiment une ville extraordinaire, et le temple était voilà, était vraiment un bâtiment qui surpassait tout ce qui pouvait exister, que ce soit à Athènes ou à Rome même. Il était beaucoup plus grand, beaucoup plus majestueux, avec des pierres qui étaient des pierres vraiment sculptées de manière admirable. Et il y a un bouquin qui s'appelle de Roger Liebi, qui est très intéressant à ce sujet, qui s'appelle Jésus dans le Temple, et qui décrit un petit peu voilà, tout cet ouvrage, avec des parallèles aussi avec Jésus-Christ. Simplement aussi, je voudrais vous montrer, par exemple, voilà, les pierres. Hein, Jésus dit, bon voilà, il ne restera pas pierre sur pierre au niveau du temple. Ça, ici, là, c'est une photo d'une pierre qui est sous un tunnel, donc c'est les soutènements de la place et du temple auparavant, mais ce n'est pas le temple. Cette pierre-là fait 13,70 m de long, 4,50 m de large, 3,50 m de haut. Elle ne rentrerait pas dans cette pièce. Pour vous dire le volume, une masse de 578 tonnes, on se demande comment ils ont réussi sans machine à transporter cela. Donc voilà, c'était vraiment un ouvrage qui était impressionnant. Et Jésus va dire, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Et juste une petite réflexion, c'est vrai qu'avec Pascal, on aime beaucoup visiter, quand on visite des villes, aller voir les monuments anciens, etc. Voilà, ça nous intéresse énormément. Et on peut s'intéresser à cela, on peut s'intéresser à beaucoup de choses, mais il faut se rappeler que tout cela, et on rejoint le message de dimanche, tout cela, en fait, est passager. Et le chrétien doit avoir une vue sur ce qui est éternel. Et je vous ai mis un verset qui n'est pas tout à fait dans ce contexte, mais qui peut s'appliquer. C'est Jésus qui va dire, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Parce que finalement, le principal, finalement, notre destinée à nous, elle est dans les cieux. Et déjà, une première leçon avec ces versets, c'est que oui, il y a des choses magnifiques. Même la nature, on peut être admiratif et louer Dieu pour cela. Et on peut bien sûr être attentif aussi à la préserver, mais elle est destinée à être détruite. Et les choses éternelles sont dans les cieux. Donc voilà pour cette première partie. Donc on pose un petit peu la base avec ces deux versets. Alors, on va avancer. Et donc, alors, un résumé rapide de notre compréhension des temps de la fin. Pourquoi ? On va travailler un petit peu à l'envers. On va travailler à l'envers, d'une façon, bon, finalement, qui n'est pas celle que j'aurais préférée. Alors, figurez-vous que je me suis fait avoir, parce que je ne sais pas qui c'est qui a fait le plan là pour les études bibliques, mais il n'est pas terrible. En fait, j'avais proposé ça à mes frères, et ils sont très très gentils parce qu'ils ont accepté sans trop rien dire, tout en se disant qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas trop. Et pour ce passage et une partie du 14, j'avais mal lu le calendrier, je pensais qu'on avait trois mardis. Or, on n'en a que deux. Et déjà, j'avais mis un point d'interrogation, est-ce qu'on pourra le finir en trois mardis? Et puis je me suis dit, bon, c'est Benjamin qui va se trouver, donc bon, voilà. Sauf que les choses ont changé, c'est pas Benjamin, c'est moi, et c'est pas trois mardis, c'est deux mardis. Donc c'est pour ça qu'on travaille un petit peu à l'envers, et que simplement on va faire un survol rapide de notre compréhension des temps de la fin, avec sachant qu'il y a plusieurs compréhensions possibles. Et je voudrais, moi, en parler, pas du tout avec un regard ou un condescendant sur ceux qui pensent différemment, parce que c'est vrai que ça peut se tenir aussi. Et c'est dans les tuyaux que nous puissions étudier avec un petit peu plus de temps ces temps de la fin, pour voir pourquoi il y a plusieurs compréhensions, voir quelles sont les autres compréhensions, quels sont les textes sur lesquels nos frères et sœurs s'appuient, et pourquoi nous, on penche plutôt sur cette compréhension-là. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on fait ce petit survol. Parce qu'en fonction de cela, on a après un regard différent dans certains textes de ce chapitre 13. Voilà pourquoi on travaille un petit peu à l'envers. Voilà. Et donc si vous comprenez différemment un certain point, ne soyez pas voilà, froissés, et puis à la limite vous venez me voir, mais sachez que de toute façon, on le reverra de façon un petit peu plus tranquille, un petit peu plus poussée. Voilà. Alors, je vais quand même me reprendre un petit peu mes notes. Alors, voilà, donc un résumé rapide. Donc nous croyons que le Seigneur va revenir, et je pense que tout chrétien chrétien, hein, s'attend et attend le retour du Seigneur, quelle que soit sa compréhension. Voilà. Et le Seigneur va premièrement revenir pour chercher les siens. Et je vous lis dans 1 Thessaloniciens, il y a plusieurs autres passages, mais juste dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, chapitre 4, pardon, et le verset 16. Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et verset 17, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, donc le Seigneur va revenir, il ne va pas poser les pieds sur terre, et nous allons être enlevés à sa rencontre. Ça c'est la première partie. Ensuite, à la suite donc de cet enlèvement, il y aura une période de tribulation. Et donc il y a plusieurs versets qui nous en parlent, on ne va pas les lire parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous ai mis certaines références, il y en a d'autres aussi. Certains pensent que cette période ne va pas durer forcément cette année. Nous pensons qu'elle va durer 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on lit le livre de Daniel, on voit que Daniel va parler de semaines d'années. Donc des semaines d'années, c'est-à-dire 7 années. Il va parler de 70 semaines d'années, donc 70 fois 7 ans. D'accord ? Et il va dire, elles vont commencer lorsque Jérusalem a été rebâtie. Donc là, on est sous Néhémie. Donc on a la date précise de cette reconstruction. La 69e semaine va s'arrêter lorsque le Messie, lorsque Jésus-Christ, aura été crucifié. Et quand on prend ce laps de temps, sans rentrer dans les détails avec les semaines juives, etc., on se rend compte que oui, c'est parfaitement 69 fois 7 ans. Donc, puisque là, on est sur ce tempo, on va dire, pour quelle raison la 70e semaine serait-elle différente ? Donc, on pense qu'elle va durer 7 ans. Et actuellement, nous sommes entre la 69e et la 70e semaine. Il y a donc une pause dans ces semaines-là. Et nous sommes dans ce temps de la grâce, entre la fin de la 69e et la 70e semaine. Alors, nous pensons aussi que l'Église ne va pas passer par cette semaine de tribulation. Et il y a aussi plusieurs passages qui nous en parlent, sur lesquels on pourrait s'appuyer. Je n'ai pas marqué, mais je voudrais simplement vous citer par exemple, Jésus va parler de ce temps-là, et il va donner des exemples tirés de l'Ancien Testament. Il va parler de Noé, qui a échappé au déluge. Et il va parler aussi de Lot. Lot qui était donc dans cette ville, qui a été condamné dans Sodome. Et il va dire, mais de même, à la fin des temps, de même que Lot est sorti de Sodome. Et ensuite, une pluie de feu et de soufre a détruit la ville. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Et on sait qu'il a fallu que les anges prennent Lot par la main pour le tirer hors de la ville, parce qu'il lui disait, mais tant que tu es là, le châtiment, le jugement ne peut pas tomber sur la ville. Donc voilà, il y en a d'autres. Un passage qui nous montre que oui, et qui nous fait comprendre que l'Église ne passera pas par cette tribulation. Par contre, Israël passera par cette tribulation. Et donc ça nous fait dire qu'Israël n'a pas remplacé l'Église. Et il y a pas mal de passages qui nous en parlent. Notre frère Alain Larré est un spécialiste dans ce domaine. Je voudrais juste vous lire très rapidement, pour aider cela, dans Romains chapitre 11, verset 25. Parlant donc du peuple d'Israël, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Donc voilà, entre autres passages, qui nous montrent que il y a des promesses qui sont pour Israël, et l'Église n'a pas remplacé Israël. Et on croit aussi que donc le Seigneur va revenir pour établir, à l'issue donc de cette période de tribulation, le Seigneur va venir pour établir un règne sur cette terre de 1000 ans. Un règne de 1000 ans sur la terre. Apocalypse, chapitre 20, entre autres, nous en parle, mais pas que. Et puis, à l'issue de cette période de 1000 ans, Satan sera délié pour un temps. Il séduira les nations, mais il sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Il y aura aussi donc un jugement, le livre de vie sera ouvert, et tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, donc tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que cette base pour être sauvés, et qui n'ont donc pas leur nom inscrit, seront donc jetés eux aussi dans cet étang de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, entre autres, va le décrire longuement. Et puis les chapitres 21 et 22 nous parlent de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, et nous dit que tous ceux qui ont leur nom inscrit dans ce livre, eh bien, passeront donc l'éternité avec Dieu. Voilà donc un petit peu un très très rapide survol, mais bon, c'est dans les tuyaux pour qu'on puisse passer un petit peu plus de temps pour cela. J'ai fait juste un petit schéma qui nous explique un petit peu, bon voilà, qui reprend un petit peu cela, avec donc, j'ai mis ici une partie qui est grisée, parce qu'on ne sait pas combien de temps, dans combien de temps, même si on sait que le Seigneur revient bientôt, dans combien de temps on ne le sait pas, mais voilà, Jésus revient chercher les siens, après il y a cette période de grande tribulation, ensuite donc Satan est lié et il y a cette période de 1000 années, et puis Satan est délié pour un temps, il est envoyé dans les temps de feu et de soufre, et il y a après bien l'éternité qui est avec Dieu pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Voilà un petit peu donc un rapide survol de notre compréhension des temps de la fin, sachant effectivement qu'il y a plusieurs compréhensions difficiles possibles à ce niveau-là. Voilà. Alors, maintenant on va continuer. Et on voit que donc on va attaquer notre texte et on ne va pas le prendre, on ne va pas le lire, j'ai hésité, on ne va pas le lire du début jusqu'à la fin, on va le prendre morceau par morceau, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et c'est juste pour avoir aussi donc un aperçu de ce que Jésus nous enseigne dans ce texte. Et on se rend compte que en fait il y a deux questions différentes qui ont été posées au Seigneur. On va lire dans Marc le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 4 ?
Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?
Voilà. Donc là, il y a voilà, des questions qui sont posées, mais quelque part, je vous lis dans Matthieu au chapitre 24, il faudrait prendre vraiment tous les textes et on va piocher un petit peu dans Matthieu où nous retrouvons ce même récit. Dans Luc, nous retrouvons aussi ce même récit, on va piocher un petit peu. Voilà. Mais je vous lis les questions qui ont été posées et qui nous sont données par Matthieu, verset 3 du chapitre 24. Les disciples verbes en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez? Donc, on se rend compte là que Jésus parle de la destruction du temple. Quand cela arrivera-t-il? Première question. Et ensuite, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, une question différente. Donc, en fait, il y a des questions sur ce qui va se passer dans les décennies qui suivent ce récit, et puis des questions qui touchent les temps de la fin. Et les réponses que Jésus va donner vont s'entremêler. Et quand on le lit aussi dans Marc, on le remarque aussi, quand on le lit dans Luc, on le remarque aussi, mais d'une façon un petit peu différente. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre des versets un petit peu partout, là, dans ce chapitre. Ça paraît comme ça un petit peu, tiens, mélangé, mais en fait, c'est pour suivre un petit peu la réponse que Jésus a donnée. Voilà. Alors, donc, il y a des réponses à la première question et des réponses de Jésus à la deuxième question. Alors, réponse pour la première question. Et de nouveau, je me reprends mes notes. Alors, d'abord, Jésus va donner une mise en garde. Et cette mise en garde, elle est pour tous. Pour les apôtres qui étaient enseignés là, mais pour nous aussi aujourd'hui. Quelqu'un veut bien lire les versets 5 et 6 ?
Jésus se mit alors à leur dire. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi ». et ils séduiront beaucoup de gens.
Voilà, si tu peux lire les versets 21 à 23.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible.
Voilà. Donc là, c'est vraiment un avertissement qui n'est pas pour une période précise, mais qui est pour tous. Pour les apôtres, comme pour nous encore aujourd'hui. Et on sait que les moyens de séduction sont extraordinaires. Et des faux Christ, des faux messies, il y en a eu dès le départ, et puis ça continue. Et on pourrait dire que oui, il y a même des faux prophètes, des faux apôtres, et on voit beaucoup de choses, et notamment avec les moyens modernes de communication, beaucoup de choses qui sont données avec une apparence de vérité, mais le poison qui est là. Et Jésus met en garde. Et comment pouvons-nous vraiment ne pas être séduits? Eh bien, tout simplement, et là on rejoint encore le message de dimanche, tout simplement en nous plongeant dans la parole de Dieu, en passant du temps dans la parole de Dieu. Et je vous ai mis Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 15, pour ne pas être séduits, où Paul va dire, mais que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça le but, connaître le Fils de Dieu. La maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, et ainsi nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Voilà. Le monde cherche toujours à nous entraîner à sa suite, à nous faire sortir des rails, on pourrait dire, des rails de la parole de Dieu. Et nous avons vraiment à faire des efforts pour nous plonger dans la parole de Dieu. Et la connaissance du Fils de Dieu, eh bien nous l'avons en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Et Paul continue, mais en disant la vérité, et la parole de Dieu est la vérité, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui la tête, Christ. Voilà, comment ne pas être séduit en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Donc, on revient vers ces deux questions donc, qui sont posées. Voilà, la première question. Et quand on lit ce texte dans l'évangile de Luc, Luc va le dire différemment. Chapitre 21, verset 12. Voilà. Jésus va mettre en garde. Et puis il va parler de beaucoup de choses. Il va parler de beaucoup de choses, une nation célébrera contre une autre nation, etc., que nous retrouvons dans Marc, mais il va mettre cela à un endroit différent. Et puis il va dire, mais avant tout cela, donc au verset 12, il dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, etc. Donc avant que ces choses arrivent, ces bruits de guerre, etc., d'abord, pour vous, il y a des choses qui vont se passer. Et donc voilà un petit peu comment on comprend qu'il s'agit ici de la première partie, donc des décennies qui vont suivre tout de suite après l'enlèvement, l'ascension de Jésus-Christ, avant tout cela. Alors je vous mets un petit schéma pour essayer aussi de comprendre. Donc on reprend ce que je vous ai mis tout à l'heure, et vous voyez que ici là, je vous ai mis réponse A. Voilà. Les réponses A qui vont donc jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70. Donc, première question des disciples, sur le temple qui sera détruit, il y a des réponses de Jésus à ce niveau-là. Et puis ensuite, ici, réponse B qui concerne donc la fin des temps. Et on est obligé de bien avoir cela sous les yeux pour comprendre ce passage, mais aussi celui de Matthieu et celui de Luc. Donc, voilà, je reprends ma souris au thème ici. Alors, mais avant tout cela, donc on va lire les versets de 9 à 11. Est-ce que quelqu'un veut lire les versets de 9 à 11? Voilà ce qui va se passer avant donc les temps de la fin.
Quand ils entendraient parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord.
C'est quel verset que tu lis là? C'est
le 9.
13.
Dans Marc.
Dans Marc 13.
On revient dans Marc.
D'accord.
Donc, à chaque fois que je vous mets comme ça les versets, je n'ai pas remis forcément le chapitre 13, donc voilà, j'aurais dû le faire, c'est dans Marc.
Marc 13, verset 9.
J'y étais, je ne sais plus. Excuse-moi. Faites attention. Oui, je suis bien sûr.
C'est ça, prenez garde à vous-même.
Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Voilà, donc merci. Et là, en fait, quand on lit cela, et quand on pense au livre des Actes, on se rend compte que Jésus est en train de décrire ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Et si on prend les chapitres 3 à 8, on voit vraiment, c'est frappant. Par exemple, il nous est parlé ici de synagogue. Alors, au verset 9, il nous est parlé ici, tu as lu, toi, prenez garde, on vous livrera aux tribunaux. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction? Non? Certains, peut-être, vous avez les Sanhédrin.
Oui, Sanhédrin, version d'Arby.
Voilà, version d'Arby, Sanhédrin. Alors, le Sanhédrin, c'était donc le tribunal juif. Il y avait 71, il me semble, personnes qui siégeaient dans ce tribunal. Donc, imaginez un petit peu, hein, c'était quand même quelque chose d'important. Donc c'était des scribes, c'était leur famille aussi, des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur présidait ce tribunal. Et le tribunal, donc juif, avait le droit même de mettre à mort à condition que ce soit, on va dire, entériné par le procurateur romain. C'est pour cela que quelques temps plus tard, on verra que Jésus a été condamné à mort par le Sanhédrin. Et ensuite, ils sont allés voir Pilate pour que Pilate, suive. Hein. Et Pilate s'est fait un petit peu tirer l'oreille, mais il a quand même suivi. Donc, on voit, voilà. Si on lit le livre des Actes, ça nous est décrit. Étienne, par exemple. Étienne a été jugé par le Sanhédrin. Il nous est dit ici aussi que ce que vous aurez à dire au verset 11 vous sera donné à l'heure même. Donc ne préméditez pas ce que vous aurez à dire. Toujours en parlant d'Étienne, c'est quand même extraordinaire, il faudrait presque lire. Hein. Étienne, il est devant la salle des drains, imaginez 71 personnes qui sont là, en train de l'accuser, et il va faire un résumé magistral de toute l'historique du peuple d'Israël, en mettant le doigt à chaque fois sur Israël qui n'écoutait pas la voix de son Dieu, pour arriver à dire, mais vous faites la même chose. Vous faites la même chose que vos pères ont fait. Et donc voilà, ça lui a été donné à l'heure même. Et on sait que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Étienne. Et là, par contre, il a été condamné à mort et ils n'ont même pas pris la peine d'aller voir le procurateur romain pour avoir l'autorisation. Ils l'ont lapidé en suivant parce qu'ils ne pouvaient plus entendre ce qu'ils entendaient. On a lu aussi, vous serez battus de verges dans les synagogues. C'est exactement ce qui s'est passé, notamment dans Actes au chapitre 5. Verset 9, Jésus va dire « Vous serez conduits devant les gouverneurs et devant les rois ». On prend acte 24 et acte 25 et on voit que Paul a été conduit devant les rois. Il a été conduit devant le gouverneur romain d'abord en acte 24, et puis après devant Festus aussi, gouverneur romain, et puis après, vous rappelez, d'Agrippa et Bérénice, hein, donc devant un roi. Et puis on pense aussi qu'il a sans doute été peut-être amené à témoigner devant Néron. Il y a plusieurs interprétations à ce niveau-là, mais bon, voilà. Donc tout ce qui s'est passé ici, Jésus, lui, leur annonce. Hein. Voilà. Après, si on prend les versets 14 à 18, est-ce que quelqu'un peut les lire aussi ?
Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là, où elle ne doit pas être, que celui qui y lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver.
Voilà, merci. Alors là, on dit, tiens, c'est drôle, réponse de Jésus pour ce qui va suivre immédiatement, hein, donc jusqu'à l'an 70, destruction de Jérusalem. Alors, probablement que dans Matthieu et dans Marc, il y a un mélange entre cette période-là, plus le temps de la fin. Mais regardez dans Luc, c'est quand même différent. Je vous lis Luc 21, versets 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Vous voyez, hein, c'est un petit peu différent de l'enseignement de Jésus rapporté par Luc. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, on retrouve là les mêmes paroles, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sorte que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et on a quand même des points qui sont un petit peu différents et qui nous font dire que quand même, hein, c'est un passage qui concerne voilà, jusqu'à l'an 70 lorsque Jérusalem a été détruit. Et si on fait un petit peu un résumé de ce qui s'est passé ici, donc là, en fait, je me suis basé beaucoup sur les écrits de Flavius Joseph, qui est un historien juif à prendre avec des pincettes, bien sûr, hein, parce qu'il était plus ou moins peut-être traître aussi. Mais en fait, il y a beaucoup quand même d'intérêt dans ses écrits. Et donc, on sait que en l'an 64 et 66, il y avait bon, un grand tumulte qui régnait dans Jérusalem. La révolte grondait de plus en plus et elle a débouché sur une insurrection. Notamment, il y a eu donc cet homme, là, Florus, qui a été donc nommé gouverneur romain, qui était totalement antisémite et qui a commencé, donc il aimait les sous, et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pioché dans le trésor du temple et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il y a eu donc une insurrection totale de la part des Juifs qui se sont révoltés contre les Romains. Ensuite, pour mater la rébellion, donc c'était Néron qui était empereur à Rome, il a donc envoyé Vespasien, qui était un des meilleurs, sinon le meilleur dans ses dirigeants, pour donc mater cette rébellion. Et puis vous savez que Néron s'est suicidé. Donc là, on est en 68, à l'été 68, Néron s'est suicidé, et c'est donc Vespasien qui a été nommé empereur. Ce qui fait qu'il y a eu un flottement, parce qu'auparavant, Jérusalem était encerclée. Comment donc écouter les paroles de Jésus qui dit « Mais si vous êtes dans Jérusalem, on l'a lu dans Luc, bien fuyez, Jérusalem est encerclée. » Et là, il y a eu un relâchement qui a duré quelque temps, Jérusalem a pu être réapprovisionné, et les chrétiens ont pu, comme cela, qui avaient foi dans les paroles de Jésus, qui se rappelaient son enseignement, les chrétiens ont pu sortir de Jérusalem. Et puis, on sait que donc Vespasien a envoyé son fils, c'est ça, Titus, c'est son fils, c'est ça, merci. Titus, donc, qui a achevé le boulot, hein, et qui a donc détruit Jérusalem, détruit le temple, il ne restait pas pierre sur pierre, et donc tout ce que Jésus avait annoncé, eh bien, c'est réalisé à ce moment-là. Et je vous ai mis ici un texte donc, de ce fameux Flavius Joseph, hein, qui dit que donc les soldats étaient déjà fatigués de tuer, ça a été terrible, hein, ça a été vraiment terrible, ils étaient déjà fatigués de tuer, qu'une foule de survivants se montrait encore. Titus ordonna donc d'abattre uniquement les gens en armes et qu'ils continuent à résister, et de faire prisonnier le reste. Les soldats, outre ceux qu'ils avaient ordre de tuer, abattaient également les vieillards et les faibles, tant qu'à faire. Hein. Les hommes dans la fleur de l'âge et bons pour le service, ils les poussèrent dans le temple et les enfermèrent dans la cour des femmes. C'est après que, apparemment, le temple a été détruit, avec notamment, ils ont mis des palissades en bois pour incendier le temple, etc. Et donc, ces prisonniers ont été ensuite vendus comme esclaves. Sauf que, il y a eu apparemment près de 100 000 prisonniers qui ont été vendus comme esclaves. Et donc le marché s'est écroulé, hein. C'est comme le pétrole, hein. Voilà, hein. S'il y a beaucoup d'offres hein, et peu de demandes, bon voilà, hein, ça s'équilibre et même ça, il y a un déséquilibre après qui se produit, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ces esclaves ne trouvaient pas preneur. Et regardez un petit peu dans Deutéronome, je vous le lis. Simplement, moi je trouve que la parole de Dieu est quand même extraordinaire. Deutéronome, quand on lit donc les bénédictions et les malédictions que Dieu donc, donne à son peuple pour l'avertir, s'il désobéit. Deutéronome 28, et on est au verset 68, il va dire, je crois que je me trompe, ah voilà, oui, là vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme serviteurs ou comme esclaves dans certaines traductions, et il n'y aura personne pour vous acheter. Et c'est exactement ce qui s'est passé, nous rapporte donc cet historien. Les esclaves ne trouvaient pas preneur. Donc voilà un petit peu pour ce qui concerne donc cette période-là des réponses de Jésus concernant cette première partie.
Excusez-moi, mais ce n'est pas la bonne référence sûrement, on ne trouve pas dans la Bible.
C'est pas la bonne référence, c'est la deuxième partie du
verset. 28-68, la deuxième partie du verset.
Pardon, j'ai lu que la deuxième partie du verset.
Ah, pardon.
C'était pour raccourcir, j'aurais dû tout lire. Alors, avant de passer au volet suivant, il faut quand même aussi prendre une réponse que j'ai déjà donnée. Et donc, pardon, je vous mets. Le verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et on sait que déjà dans les actes des apôtres, c'est ce qui s'est produit. Lorsqu'il y a eu la persécution, les apôtres sont partis et puis ça a été l'occasion d'annoncer l'évangile aux nations. Voilà. Le chapitre 24, verset 14 de Darby, donc toujours dans ce même contexte, va dire ceci, « Cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Voilà. Donc voilà, il y a une condition pour que la fin arrive, c'est que l'évangile soit prêché à la terre habitée entière, hein, c'est la terre œcuménique. Hein, œcuménia, c'est vraiment la terre habitée tout entière, dans le bon sens, on va dire. Hein. Voilà. Ça a commencé avec les actes des apôtres, mais au jour d'aujourd'hui, alors, il me semble, si je me rappelle bien, l'expo Bible qu'il y avait en haut, que on était proche de 3000 traductions de la Bible, ou une partie de la Bible, 3000 traductions, non, 3000 langues différentes. Hein, je crois que c'était à peu près ça. Donc c'est un nombre qui est colossal. On sait aussi qu'avec les moyens d'aujourd'hui de communication, le moindre coin de la Terre, hein, si la Terre peut avoir un coin, est touché à la possibilité d'entendre l'Évangile. Alors, est-ce que toutes les nations, puisque c'est la Terre habitée tout entière, hein, toutes les nations sont touchées par la parole de Dieu, je ne sais pas. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on n'en est pas loin. Et ça nous montre que le retour du Seigneur est proche. Parce qu'alors viendra la fin. Alors, on continue et on va donc passer donc aux réponses qui concernent les temps de la fin. Le verset 8 va nous dire « Ce ne sera que le commencement des douleurs ». Et là aussi, c'est assez intéressant. Est-ce que quelqu'un a la version Sommaire de ce verset ?
En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines,
Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement.
Voilà, les premières douleurs de l'enfantement. Et en fait, la traduction sommaire est bonne, parce que souvent, ce terme qui est traduit après simplement par douleur dans la seconde, ou dans d'autres versions, souvent il a cette idée d'accouchement. Et alors, ceux qui sont passés par là le savent, l'accouchement, ce sont des contractions qui au départ sont légères, et puis qui s'accentuent, la fréquence donc augmente, elle se resserre, et puis elles sont de plus en plus douloureuses. Voilà, j'en sais quelque chose. J'ai assisté, moi, j'ai vu Pascal.
Oui, donc, voilà. C'est dans le chapitre. Donc,
mais après, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, la Bible en parle. Et pour le Seigneur, il en est ainsi. C'est vraiment une image parlante. C'est que, oui, il y a une bonne nouvelle, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais avant ce retour, les contractions sont là. Et les contractions sont de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Et donc, on va le voir là avec ces versets que nous avons lus. On va le voir, le commencement des douleurs, verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. On va dire, bon, mais des guerres, il y a toujours eu. Il y a toujours eu des guerres, là. Qu'est-ce que. Voilà. Et puis, les bons cœurs vont dire, mais depuis le temps qu'on attend, où est donc le signe de son retour ? Regardez juste ce que je vous mets ici. Donc là, c'est pris sur le site de la Croix-Rouge, mais il y a aussi l'ONU qui a le même rapport. En 15 ans, le nombre de conflits dans le monde a doublé. Alors, on parle de la guerre donc, dans le Moyen-Orient, en Iran, actuellement, de celle d'Ukraine aussi un petit peu moins, mais il y a, j'ai lu ici, 130 conflits armés recensés actuellement dans le monde. Il y en avait deux fois moins il y a 15 ans. Donc voilà, les contractions s'intensifient et sont de plus en plus proches. Ensuite, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Là aussi, il y a toujours eu des tremblements de terre, forcément. Regardez, alors, ce n'est pas celui que je voulais vous mettre, mais c'est quand même une étude sérieuse, puisqu'elle a été faite par l'école polytechnique. La fréquence et l'intensité des tremblements de terre a augmenté d'une façon phénoménale ces dernières années. Et vous voyez ici, là, on a donc les couleurs qui sont pour l'intensité et le nombre, le nombre donc, qui arrive donc à presque à plus de 50 pour les dernières années. Là aussi, voilà. Alors, il y a des explications scientifiques, il paraît que c'est à cause du changement climatique, j'en sais rien, je ne suis pas du tout qualifié pour en parler. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a un constat, c'est que le nombre de séismes augmente en fréquence et en intensité. Donc les contractions s'intensifient. Et puis, il y aura des famines. Il y a toujours eu des famines. Là aussi, le rapport, ça c'est le sel, donc c'est un organisme chrétien que vous connaissez. 783 millions de personnes souffrent de la faim actuellement, soit 100 millions de plus que simplement en 2019. Et même si on se dit, oui, mais la population a augmenté, donc c'est normal qu'il y ait plus de famine. Non, si on fait le ratio entre la population et ceux qui meurent de faim, eh bien on voit que, eh bien oui, ça s'intensifie aussi. Là encore, les contractions, eh bien, s'intensifient. Il y aura donc des famines et des troubles. Si vous avez la version Summer, il y est dit famine et troubles ou insurrection. Et c'est là que je me suis trompé. J'avais lu donc un rapport d'une commission d'enquête qui avait été donc demandé par l'Élysée. Et sur ce rapport qui est rendu public, il y a une introduction d'Emmanuel Macron qui parle justement du nombre de troubles dans le monde. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est phénoménal. Et ça atteint un point qui n'a jamais existé auparavant. Et là encore, voilà, les contractions s'intensifient. Verset 12, « Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Et on dit, mais là aussi, des familles qui ne s'entendent pas, ça a toujours existé. Mais là également, à la question, alors je ne l'ai pas mis, mais je me le suis mis ici, la question qui a été posée, la famille du 21e siècle existe-t-elle toujours? La réponse, oui, elle existe toujours, mais d'une façon différente. Il faut qu'elle se réinvente en intégrant une diversité de modèles, en prenant en compte des défis comme les violences conjugales, le rajeunissement de la délinquance, et puis en prenant aussi le fait que eh bien, il y a de nombreuses variantes au niveau de la famille. Famille monoparentale, recomposée, homoparentale, et puis famille post-nucléaire, c'est-à-dire les enfants sont élevés par des parents qui ne sont pas les parents biologiques. Voilà un constat qui fait que, voilà, dans l'explication, effectivement, il y a un déchirement au niveau de la famille, avec, on n'hésite pas à trahir, d'une façon qui a toujours existé, mais jamais au point que nous connaissons aujourd'hui. Et là encore, eh bien, on voit que eh bien, les contractions s'intensifient. Et puis le verset 13, hein, il nous est dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Juste une petite parenthèse, hein, on persévère, c'est pas parce qu'on persévère qu'on est sauvé, il ne faut pas le comprendre comme cela ce texte, c'est parce qu'on est sauvé que l'on persévère. Mmh. Voilà. C'est parce qu'on a la vie de Dieu, de Christ en nous, que l'on est capable de persévérer. Mmh. Voilà. Mais concernant les persécutions, il y a toujours eu des persécutions. On le voit même avec Jésus, on le voit dans les Actes des Apôtres. Mais regardez simplement l'index mondial de la persécution en 30 ans, entre 1993 et 2023. Et regardez un petit peu comment ça fait tache d'huile. C'est absolument impressionnant de voir tous ces pays qui n'étaient pas persécutés il y a 33 ans et qui maintenant sont persécutés et de façon très très violente pour certains. Et on le voit même au niveau de l'Amérique centrale, etc. Voilà, c'est quelque chose qui a grandi comme jamais auparavant. Et là encore, on voit que oui, les contractions s'intensifient et deviennent de plus en plus intenses. Et on continue aussi, et on va lire, alors comme le temps passe très très vite, est-ce que quelqu'un veut lire du verset 19 au verset 27? Le reste, on l'a lu, hein, et je vous ai dit que c'était des paroles qui concernaient et le début et la fin. Donc on lit verset 19 à 27.
Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu et sera au commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.
Non, c'est bien, merci. Alors là, dans quel temps sommes-nous? Donc là, il s'agit bien sûr de cette période de détresse terrible, cette tribulation qui va donc arriver lorsque l'Église aura été enlevée dans les cieux à la rencontre du Seigneur. Et ici, de quelle personne s'agit-il, ces élus? Bien entendu, en priorité, c'est d'Israël. Plusieurs compréhensions différentes à ce niveau-là, mais on peut dire avec certitude que c'est d'Israël qu'il s'agit ici. Donc cette semaine de cette année, Israël va faire un pacte avec un faux messie. Et ça, on va le voir notamment dans Zacharie. Dans Zacharie, au chapitre 13, notamment. Voilà. Et dans Daniel aussi, au chapitre 9 et au verset 27. Daniel 9, 27, je vous le dis. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de l'alliance, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. De quoi s'agit-il ici? En fait, Israël va faire donc une alliance avec ce faux messie. Et au milieu de la semaine, donc le 3 ans et demi, il va dénoncer cette alliance-là. Et Israël va refuser donc de l'adorer parce qu'il va demander à être adoré comme étant Dieu lui-même. Il va prendre la place de Dieu, il va vouloir prendre la place de Dieu. Et Israël va refuser cela Il s'enchaînera donc un temps de détresse terrible pour le peuple d'Israël. Mais c'est cette période-là qui permettra à Israël de regarder vers celui qu'ils ont percé. Et d'ailleurs, il y a un passage qui est très intéressant, il faut que je vous le lise, dans Matthieu. Donc, Matthieu 24 reprend le même texte que Marc 13, mais avant, au chapitre 23, au verset 37, Jésus va dire quelque chose de très très important, il va dire « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses coussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc voilà, votre maison vous sera laissée déserte. C'est cette période terrible où Israël, le peuple, a été donc déporté dans toutes les nations, et où là, il va donc vivre ces temps d'angoisse, mais qui vont lui permettre de tourner les yeux vers celui qu'ils ont percé. Et là, bien entendu, il faudrait prendre du temps pour le développer, en particulier avec le livre de Daniel. Et il y a beaucoup de passages qui nous montrent donc qu'ensuite, Israël va tourner ses regards vers son Seigneur et va reconnaître enfin son Messie. Alors, pour terminer, c'est bien, on sera dans les temps, pour terminer, ça je ne vous l'ai pas mis, oui, voilà, quelles conséquences pour nous aujourd'hui? Et qu'est-ce que ce passage doit produire chez chacun d'entre nous? Et là, on va lire donc des versets 28 à 35. Là encore, si quelqu'un veut lire ces versets.
Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Tu continues, hein, c'est ça?
Ah oui, juste à la fin, en fait. Oui.
Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage, il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants.
Voilà. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. On peut comprendre d'une manière ou d'une autre le reste, voilà. Mais voilà, une chose que nous devons retenir, c'est que le Seigneur, à plusieurs reprises, trois fois, je crois ici, nous dit veillez, veillez, veillez. Alors, l'exemple du figuier est très très intéressant, et souvent on le prend pour Israël. Et c'est vrai qu'on l'a vu encore avec Jean, l'étude précédente, c'était vraiment parlant, hein, avec le figuier qui a été maudit. Et c'est vrai que très très souvent dans la parole de Dieu, le figuier c'est Israël. Et quand on songe à ce qui se passe actuellement en Israël, c'est extraordinaire. Un tout petit pays, on parle de lui dans le monde entier, à chaque journaux, c'est Israël, hein, qui est là. Voilà. Comment un tout petit pays, grand comme un département français, peut-il faire autant parler de lui? On voit que c'est une succession de miracles qui se sont produits depuis fin 19e, après la création d'Israël, etc. C'est une suite de miracles. Mais ici, en fait, le figuier, c'est aussi tout ce que le Seigneur a dit. Voilà, tous ces signes. Et quand vous remarquez, hein, autour de vous tous ces signes, voilà, le figuier reverdit. Chaque signe, c'est un bourgeon, c'est une petite feuille qui se développe et qui nous montre que le Seigneur est vraiment à la porte. Il est là. Il vient bientôt. Et finalement, on se rend compte que, eh bien, tout ce que le Seigneur annonce ici s'est mis en place et qu'il peut revenir ce soir même. Il peut revenir maintenant. Et donc, là, la consigne qui nous est donnée, c'est de veiller. C'est pas à nous de savoir à quel moment, hein, de faire des calculs. Et il y a toujours des personnes qui font des calculs pensant peut-être voilà, capables de trouver une date. Et le Seigneur nous dit non, personne ne le sait. Mais vous, votre rôle, ce n'est pas de calculer, mais c'est de veiller, d'être trouvé veillant et priant. Et c'est vrai que si on n'a pas à chercher des dates, par contre, on a à être vigilant concernant les signes des temps. Et dans Matthieu chapitre 16, versets 2 et 3, le Seigneur va reprocher justement aux pharisiens de ne pas être capable de discerner les signes des temps. Il va leur dire le soir, quand il fait beau, non, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est en rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et aujourd'hui, on pourrait dire, et voilà, vous regardez le journal, la météo, pour savoir quel temps il fera demain, ou dans les jours qui suivent, mais soyez attentifs aux signes des temps. Et chaque fois que vous regardez un journal, un bulletin météo, pensez à cet enseignement de Jésus. Soyez attentifs aux signes des temps. Veillez et priez. Et là aussi, voilà, veillez et priez, ça va de pair. Parce que si on veille avec nos propres forces, on n'y arrive pas. Veillez et priez parce que nous appuyons sur le Seigneur qui, lui, nous rend capables de rester veillants, de ne pas tomber dans les pièges du diable qui cherche à nous amener à sa suite avec tous ces faux messies qui sont toujours là autour de nous. Tous ces faux enseignements, veillez et priez. C'est vraiment l'enseignement que Jésus va donner avec en l'appuyant et que nous devons aussi retenir pour ce soir. Voilà donc un rapide survol. Désolé d'Alain, on a vu ça au poids de charge, mais bon, on ne pouvait pas trop faire autrement. Bon, j'espère que ça donne quand même une petite idée de l'enseignement de Jésus à ce moment-là. Voilà. Si quelqu'un veut terminer en prenant.
Seigneur, te rendons grâce parce que ce chapitre nous appelle à la vigilance, à la prière, Seigneur. Attendre ton retour plus que jamais, Seigneur, comme notre prière est encore viens bientôt, amen, viens bientôt, Seigneur. Ouais. Merci de nous donner de garder les yeux ouverts, Seigneur, de nous plonger dans ta parole plus que jamais, Seigneur, pour être éclairé, être inspiré, être conduit. Merci pour l'enseignement qui a été donné ce soir, Seigneur. Merci parce que tu l'as donné il y a très longtemps, mais c'est pour nous aussi aujourd'hui. Et nous te prions pour le peuple d'Israël ce soir aussi, te demandant, Seigneur, de faire en sorte qu'ils tournent leur regard vers toi, comme c'est annoncé, Seigneur, dès maintenant, que beaucoup de Juifs puissent venir à Christ, que beaucoup puissent le reconnaître comme le Messie. Nous prions pour le témoignage des chrétiens dans ce pays et dans le monde, Seigneur. Nous prions pour les chrétiens persécutés, nous l'avons mentionné ce soir, et tous ces signes, Seigneur, qui sont là, tous ces événements, tremblements de terre, guerre, Seigneur, que le monde aussi ouvre les yeux, Seigneur, et qu'ils puissent enfin s'intéresser à toi et à ta parole, Seigneur Dieu. Merci de nous accompagner maintenant et de permettre que nous puissions garder ces paroles dans nos cœurs, mais aussi de les partager autour de nous pour interpeller et pour amener à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Thank you.